Décryptage. Stéphane Genest.
L'économie de l'UE au menu d'un Conseil européen extraordinaire ce jeudi. Et le sujet a grandement occupé les dirigeants du continent tant il les préoccupe puisque le constat est implacable. L'Union européenne est en voie de déclassement face à la Chine et face aux États-Unis. Elle peine à être compétitive. L'UE qui doit donc agir vite pour exploiter son marché face à ces deux puissances. Les chefs d'État et de gouvernement qui en ont discuté afin de trouver les solutions pour éviter un décrochage de l'économie du vieux continent. Comment restaurer la compétitivité de l'Europe? C'est votre décryptage du jour. Et pour nous accompagner, Catherine Mathieu, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes économiste à l'OFCE, présidente de l'Association d'Instituts Européens de Conjonctures Économiques. On va comprendre avec vous, durant ce décryptage, pourquoi l'Europe est à la peine face à la Chine et aux États-Unis. Mais avant cela, Catherine Mathieu, cette question un peu triviale, mais pour le moins essentielle, pourquoi il est important d'être compétitif ?
Bien, dans une économie de marché dans laquelle nous sommes aujourd'hui, si on veut vendre, si on veut produire, si on veut avoir des emplois, il faut être compétitif. Et aujourd'hui, l'Union européenne est surtout positionnée sur des créneaux sur lesquels il y a beaucoup de concurrence, notamment en matière industrielle. Et comme vous le disiez en introduction, eh bien, on n'est pas en très bonne situation par rapport à nos partenaires chinois, tout d'abord, et américains.
Alors justement, Catherine Mathieu, quels sont les risques si on n'est pas compétitif ?
Bah, les risques, c'est qu'on perde nos marchés à l'exportation. Hein. Et donc ça fait partie des grands risques, en particulier pour aujourd'hui les exportateurs allemands qui sont vraiment dans le domaine industriel,
la puissance
industrielle allemande, et qui s'inquiètent depuis plusieurs années de voir qu'ils perdent des parts de marché. Pendant très longtemps, ils ont réussi à gagner ou à maintenir des parts de marché, y compris vers la Chine, parce qu'ils étaient positionnés sur des produits de plutôt haute qualité. Mmh. On pense à l'automobile haut de gamme, par exemple. Mais aujourd'hui, tout cela change. Et en particulier dans le secteur automobile, la Chine s'est beaucoup positionnée sur les véhicules électriques, ce qu'on n'a pas su faire à l'intérieur de l'Union européenne. Et donc, en fait, la Chine est en train de gagner énormément de parts de marché sur ces secteurs et l'Europe est à la traîne.
Ça a des conséquences sur le quotidien des Européens, sur les pays, sur les entreprises européennes, cette perte de compétitivité ?
Ben, ce qu'on voit aujourd'hui, enfin en tout cas depuis la sortie de la crise Covid, c'est qu'on a des productions industrielles qui sont à peu près stables à l'échelle de la zone euro, alors qu'elles ont recommencé à croître en Chine, nettement.
Et au cours des États-Unis également.
Alors, les États-Unis ne sont pas si bien positionnés que ça, en fait, en matière industrielle. Eux, ils se sont davantage positionnés depuis quelques temps sur les services aux entreprises, sur tout ce qui est le développement des nouvelles technologies. Et là aussi, ils prennent de l'avance par rapport à l'Union européenne. Donc nous, aujourd'hui, effectivement, on voit en tout cas en Europe que dans les secteurs industriels, même les derniers chiffres publiés par Eurostat font plutôt apparaître une baisse de la production industrielle dans un certain nombre de pays, et c'est particulièrement le cas en Allemagne.
Alors le constat est dressé, l'Europe peine à être compétitive par rapport à la Chine ou encore aux États-Unis. Quelles sont les raisons de ce mal ? Si on peut appeler ça un mal ?
Eh bien, on n'a pas su, dans certains secteurs industriels, rester positionné sur des secteurs dans lesquels on arrivait à vendre nos produits. Hein. Je citais tout à l'heure l'exemple de l'automobile. On était plutôt positionné sur des secteurs, bien sûr, avec des véhicules à moteur thermique. Maintenant, on passe sur l'électrique. On n'a pas pris le tournant suffisamment tôt. Sur les secteurs de haute technologie, c'est la même chose aussi qui se passe, là, vis-à-vis des États-Unis et de la Chine. Et donc, en fait, on a un peu l'impression qu'on a vécu sur nos acquis en matière industrielle. Et puis, il y a toujours chez les Européens, de façon générale, les Européens de l'Union européenne, cette idée qu'il faut laisser jouer librement les marchés, qu'il faut laisser jouer la libre concurrence et que ça va nous permettre de nous maintenir, voire de gagner des parts de marché. Or, cette stratégie, ça n'est pas celle qui est mise en place par les États-Unis ou par la Chine, qui eux aident leurs entreprises.
Oui, justement, c'est de la faute de l'Union européenne, c'est de la faute des pays membres, ou c'est de la faute de la Chine ou des États-Unis qui, justement, ont d'autres stratégies plus volontaristes.
C'est surtout le choix, d'abord, de l'Union européenne d'avoir dit on crée un libre marché, hein, il y a maintenant plus de 30 ans, et puis cette libre concurrence, c'est elle qui va nous permettre d'avoir la croissance la plus forte, les meilleures performances, laissons jouer librement les marchés. Mais pendant ce temps-là, la Chine qui se développait a décidé d'aider au développement de ces entreprises,
a
mis beaucoup d'argent dans l'investissement. Il y a tout un programme qui a été là. Et la Chine est montée en gamme, effectivement. Alors, on a aussi longtemps pensé dans l'Union européenne, OK, les Chinois produisent des produits peu chers. Et nous, on va rester positionnés sur l'haut de gamme. Mais on voit bien qu'au cours du temps, la Chine est montée en gamme. Et du côté des États-Unis, qui sont toujours cités comme l'économie la plus libérale de la planète, en fait, on a des mesures d'intervention de l'État qui sont très fortes, et ça depuis longtemps. Et les Américains n'hésitent pas, quand il faut soutenir leur industrie ou leur économie, à, là aussi, prendre des mesures pour l'investissement, prendre des mesures de subvention, ce qu'on s'interdit largement à l'intérieur de l'Union européenne au nom de la concurrence.
Et justement, il existe un marché unique européen, vous le précisiez, il a plus de 30 ans, mais il existe aussi un marché des capitaux. Il n'est pas assez utilisé, ce marché-là, pour faire des levées de fonds, par exemple ? Pour les très petites entreprises, pour les petites et moyennes entreprises, et même pour nos entreprises nationales.
Alors c'est une petite musique qu'on entend de plus en plus au cours des dernières semaines et qui a notamment été évoquée par Enrico Letta dans la présentation de son rapport au Conseil.
On va y revenir sur Conseil. Ce rapport, oui.
Mais sur cet aspect-là, je ne suis pas sûre que ce soit vraiment un élément déterminant parce qu'aujourd'hui, à l'intérieur du marché unique, les entreprises peuvent investir. Elles peuvent investir où elles veulent à l'intérieur du marché. Elles peuvent investir où elles veulent à l'extérieur du marché. Et pour moi, ça n'est pas la question du financement et du mode de financement qui se pose. C'est vraiment davantage une question de stratégie industrielle qui n'a pas été prise en compte par les pays de l'Union européenne, pour des raisons diverses, hein, parce que certains pays sont vraiment des pays très libéraux et ils considèrent qu'ils ont tout intérêt à ce qu'il y ait cette libre concurrence avec, au sein des marchés européens en particulier, et ne souhaitent pas du tout qu'on harmonise vers le haut la fiscalité, les réglementations. Donc ça, c'est en particulier le cas pour les petits pays de l'Union européenne qui ont su tirer avantage de leur appartenance de l'Union européenne de ce point de vue-là. On pense à l'Irlande, mais on peut aussi penser à des petits pays nordiques qui tirent très bien leur épingle du jeu dans ce grand marché libre. On pense aussi à l'Allemagne qui a su gagner pendant des années des parts de marché à l'intérieur de l'Union européenne en vendant ses produits de bonne qualité à des prix relativement corrects et qui étaient achetés par les pays.
Plus élevé que la moyenne, en tout cas.
Plus élevé que la moyenne, mais l'Allemagne avait réussi, si on pense encore à l'automobile, à mettre en place tout un système de production en intégrant des sites de production dans les pays d'Europe centrale et orientale qui ont rejoint l'Union européenne en 2004, et là aussi à produire à des coûts un peu plus faibles, tout en maintenant une qualité forte. Donc l'Allemagne n'avait pas non plus intérêt à ce qu'on mette en place un système de politique industrielle. C'est un terme qui reste largement tabou aujourd'hui, parler de politique industrielle. Non, il faut laisser jouer la libre concurrence. Le résultat, on voit aujourd'hui, on perd en compétitivité.
Et justement, on va revenir un peu en arrière, Catherine Vincent, parce que le sujet n'est pas d'aujourd'hui. On est en février 2011, c'est fait 13 ans déjà. Nicolas Sarkozy est président français et il se félicite des avancées européennes en termes de compétitivité. On l'écoute.
Nous voulons renforcer la compétitivité de l'Europe et de son économie. Nous voulons faire converger les différentes économies européennes. Nous sommes donc d'accord sur un plan structurel pour apporter la réponse aux défis que connaît l'Europe. Cette réponse, c'est donc une intégration plus forte de la politique économique, de façon à ce que l'ensemble des observateurs du monde entier comprennent que les économies européennes vont dans le sens de la convergence avec le souci de la compétitivité.
Je vous vois sourire, Catherine Vincent, c'était il y a 13 ans. Aujourd'hui, on n'y est pas.
Ah non, on n'y est pas, mais en fait, c'est une problématique qui se pose depuis des années. Dès qu'on a mis en place le marché unique, dès l'acte unique en 1986, on se posait déjà ces questions-là. Et dans ce son que vous venez de passer, on voit toute la difficulté de cette Union européenne qui se construit avec le souhait d'améliorer la situation des citoyens de l'Union européenne, d'avoir une Europe qui est une Europe de la convergence vers le haut. Mais ça n'est pas ce qu'on a constaté. On constate toujours aujourd'hui que les économies sont très différentes les unes des autres, qu'on n'a pas eu de convergence des économies européennes.
Mais justement, les Européens peinent à faire fond commun, déjà entre eux.
Ah oui, et alors, comme l'Union européenne s'est élargie au cours du temps, jusqu'en 2020, au moment où les Britanniques ont décidé de quitter l'Union européenne, mais qu'on a aujourd'hui une Union européenne qui a 27 pays avec des traditions différentes, des modèles différents, des objectifs différents, des structures industrielles différentes. Et on voit bien que cette diversité de l'Union européenne, elle est très difficile à gérer, c'est très difficile de s'entendre. De façon traditionnelle, la France a plutôt poussé pour avoir davantage d'harmonisation en Europe, d'harmonisation vers le haut. Mais d'autres pays n'étaient pas d'accord avec ça et ne sont toujours pas d'accord avec ça. Donc on a vraiment du mal à avoir un discours commun.
Et c'est un des avantages compétitifs, des avantages en un mot, hein, compétitifs de l'Union européenne ? Chercher le consensus et finalement, pendant ce temps-là, les autres nous passent à côté, voire devant ?
Je pense, alors ça c'est un point de vue personnel, mais je pense que oui, ça conduit à ça, parce que si je regarde un petit peu tous les discours qui ont été menés du côté de la France ou de l'Allemagne, par exemple, par les économistes sur des questions industrielles, très longtemps, les économistes allemands disaient « mais non, il faut absolument que chaque pays soit le plus compétitif possible à l'intérieur de l'Union européenne, gagne en compétitivité par rapport aux autres, et que les autres fassent aussi bien que l'Allemagne ». Donc c'était une course à la compétitivité qui était souhaitée par les pays les plus performants de l'Union européenne. Tandis que des pays un peu moins performants ou dans des situations un peu différentes disaient non, mais ce serait bien qu'on essaye d'harmoniser, d'éviter la concurrence entre nous, de soutenir certains secteurs. On a eu l'exemple aussi il y a très longtemps de nos champions industriels dont aujourd'hui encore Airbus fait partie. Mais ça, ça appartient à l'histoire.
L'avionneur européen.
Ça. Et imaginez aujourd'hui que les Européens se mettent d'accord pour produire le système qu'on a avec Airbus, qui a plusieurs pays européens et qui a un grand succès. On est capable de concurrencer Boeing, voire actuellement...
On est leader. Les Européens sont leaders sur le marché.
Mais ça, c'est un projet très européen à la base. Et quels sont les projets qui ont été construits sur ce modèle depuis ? Pratiquement aucun.
Et impossible de passer à côté, Catherine Vincent, de la réglementation européenne. Il y a beaucoup de règles et c'est compliqué de passer à côté.
Oui, alors sur la réglementation, il y a toujours des personnes qui vont vous dire qu'il y a trop de réglementation en Europe, c'est ça qui pose problème. Mais enfin, si on regarde les réglementations aux États-Unis ou en Chine, elles sont aussi très nombreuses. Dans le secteur industriel, les pays, d'ailleurs, les États-Unis n'hésitent pas à mettre en place des réglementations qui font que leurs entreprises sont avantagées par rapport à celles des autres. Donc l'aspect de la réglementation, bon, j'entends, on nous le redit souvent, que ce soit au niveau européen, au niveau des pays, peut-être. Mais ça n'est pas ça, me semble-t-il, qui va nous permettre de regagner la compétitivité qu'on a perdue.
Alors Catherine Mathieu, voilà pour le diagnostic. Aujourd'hui, l'ancien chef du gouvernement italien Enrico Letta a adressé un rapport aux dirigeants européens sur l'avenir du marché intérieur du continent. Il dresse le constat que nous avons évoqué et il tente d'apporter des pistes de solutions. Écoutez ses craintes, voire ses espoirs.
Le plus grand ennemi de mon rapport va être le tiroir. Et donc le but est celui d'éviter de finir dans un tiroir. On n'est plus en condition d'attendre.
Catherine Mathieu, ce qu'il faut comprendre, c'est que les dirigeants européens ne prennent pas compte de la situation, vu les craintes d'Enrico Letta.
Mais je pense qu'ils prennent compte de la situation. Mais encore une fois, ils ont des idées si différentes sur la façon dont la concurrence devrait se faire à l'intérieur de l'Union européenne, dont la compétitivité pourrait être regagnée, que je comprends les craintes d'Enrico Letta qui disent que ce sera peut-être un rapport de plus qui finira dans un tiroir ou sur une étagère. C'est toujours le problème. Arriver aujourd'hui à convaincre 27 pays d'aller dans la même direction, c'est difficile. Si à un moment donné... un ou deux ou trois grands pays décident d'aller dans la même direction, l'Union européenne avance. Et donc là, il faudrait en particulier que l'Allemagne et la France soient sur la même longueur d'onde. Or aujourd'hui,
c'est un peu compliqué.
Sur ces questions-là, on voit bien que l'Allemagne continue à jouer plutôt sa carte, essayer de regagner des parts de marché, y compris là, cette semaine, Olaf Scholz est allé en Chine, accompagné d'industriels allemands. Et les Allemands sont toujours dans l'idée, aujourd'hui, on va regagner des parts de marché en Chine, on va installer nos usines en Chine. Bon, même si le débat monte en Allemagne, il me semble qu'il n'y a pas la prise de conscience aujourd'hui de dire « attention, il faut faire davantage attention, mettre en place... » Alors, du coup, des règles, des réglementations.
De nouvelles règles pour enlever les règles.
qui feront que nos productions pourront continuer à être vendues. Hein, parce que derrière cette question, il y a aussi des règles. Il y a le niveau de qualité de vos produits, à quel point ils respectent des normes environnementales, à quel point la main-d'œuvre...
Oui, parce que c'est un sujet, ça. Les concurrents chinois n'ont pas forcément les mêmes normes environnementales ou de santé publique que les produits fabriqués sur le continent européen.
Exactement. Ils ne les ont même pas du tout. Et donc, il faut à un moment donné aussi mettre tout ça sur la table et se dire, est-ce qu'on veut être une Union européenne qui continue à produire avec de bonnes normes, essayer d'améliorer encore ces normes environnementales, essayer d'améliorer la situation des salariés, ou est-ce qu'on veut partir vers un modèle qui serait plus le modèle chinois aujourd'hui? Et donc là, je pense que il y a encore beaucoup de chemin à faire à l'intérieur de l'Union européenne pour se mettre d'accord.
Dans son rapport, Enrico Letta préconise qu'il faut investir à la fois avec des fonds publics publics, ce qu'on l'Europe a souvent, voire très souvent fait, mais aussi des fonds privés. Et ces fonds privés sont difficiles à trouver. Quelle solution pour que les fonds privés puissent intervenir dans ces investissements européens ?
Bah ça, c'est toujours difficile. Hein. Les fonds privés, les investisseurs privés choisissent dans quel domaine ils veulent s'investir. Si aujourd'hui, ils investissent davantage aux États-Unis parce qu'ils croient davantage dans la capacité...
Notamment les Européens, les Européens qui investissent aux États-Unis, notamment les Allemands ou les Pays-Bas, par exemple.
Exactement, bah parce qu'ils se disent que, un, ça leur donne ou ça leur peut leur garantir un accès à un marché qui se ferme, qui a tendance à se protéger. Hein, le marché américain, aujourd'hui, essaye de se préserver. Et donc, il faut produire davantage sur le sol américain si on veut être sûr de pouvoir vendre là-bas. Et puis, du côté des Américains, on a aussi... Donc, on a mis un certain nombre de contraintes. Mais du côté des investisseurs européens, on se dit ça fonctionne bien, cette économie américaine. Elle a l'air de mieux avancer que notre économie européenne. Donc, on investit. C'est tout à fait normal. C'est sur les fonds publics qu'on a un moyen direct d'action et où les États européens pourraient dire on décide de mettre davantage de fonds publics pour des financements dont on sait qu'on a besoin. Ça fait des années qu'on dit qu'il faut mettre davantage de financements sur la transition écologique. Ce ne sont pas les entreprises privées qui vont commencer à mettre ces financements elles-mêmes.
Il faut
qu'il y ait déjà des investissements publics qui se mettent en place. Et là, très vite, on se heurte à la logique européenne qui est de dire « Oui, mais attention, c'est d'abord le privé qui doit intervenir sur le marché et le public ne doit pas intervenir. » Et d'une part, et d'autre part, comme on souhaite réduire nos dettes et nos déficits publics, eh bien, on a un peu du mal à trouver des marges de manœuvre pour financer l'investissement public. Pourtant, c'est absolument nécessaire aujourd'hui.
Catherine Mathieu, il y a aussi un autre sujet, l'enjeu de démographie. Le continent vieillit, hein, ça a été prouvé, et il pourrait manquer de main-d'œuvre. C'est peut-être aussi pour ça qu'il est compliqué soit de réindustrialiser, soit de faire avancer cette compétitivité. Je pense notamment à la Chine. Qui a de la main-d'œuvre, ou les États-Unis avec des investissements et des personnes prêtes à travailler. D'ailleurs, Joe Biden s'en félicite, hein, le taux de chômage aux États-Unis continue de diminuer.
Oui, alors aux États-Unis, on a une population active qui augmente de façon plus rapide que celle qu'on a à l'intérieur de l'Union européenne. En Chine, aujourd'hui, on a une population qui est très vieillissante aussi et une population qui commence à baisser. Donc là, ça ne va pas être facile non plus pour les Chinois à terme. À l'intérieur de l'Union européenne, on a peu de croissance de la population active, mais ça dépend des pays tout de même. Alors aujourd'hui, on a des pays qui ont une population qui continue à être relativement dynamique, d'autres moins. Les Allemands sont dans une situation où le taux de chômage est faible, où ils nous disent qu'ils ont des contraintes de main-d'œuvre dans un certain nombre de secteurs, mais c'est aussi ce qu'on dit en France, dans certains secteurs.
On le dit à peu près partout, oui.
Donc en fait, on a une situation peut-être un peu étonnante aujourd'hui, où à l'intérieur de l'Union européenne, même dans les pays où il y a un taux de chômage qui n'est pas redescendu à des niveaux aussi bas que ce qu'on pourrait qualifier d'un taux de chômage de plein emploi, il y a des secteurs où on a du mal à recruter.
Et justement, ce sera le mot de la fin, Catherine Mathieu. Quelle sera la future bataille pour la compétitivité de l'Union européenne ? Sur quoi peut-elle capitaliser pour espérer pouvoir tirer son épingle du jeu ?
Ah, moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut vraiment qu'on aille vraiment au maximum dans la prise en compte des enjeux liés à la transition écologique. Il faut absolument qu'on développe des investissements qui nous permettent d'investir dans la transition écologique, dans la rénovation énergétique, dans les transports les moins peu loin possible. Il faut qu'on avance, comme le train par exemple, et il faut absolument qu'on avance de ce côté-là.
Comment restaurer la compétitivité de l'Europe ? C'était le grand thème de décryptage de ce jeudi 18 avril 2024. Merci beaucoup Catherine Mathieu, économiste à l'OFCE, présidente de l'Association d'Instituts Européens de la Conjoncture Économique. Merci à vous d'avoir accepté l'invitation d'RFI, d'être venu jusqu'ici. Merci à Eleonore Krynic à la présentation. Merci à Fabrice Violet à la réalisation. Merci également à Julien Clémenceau, chef du service économie d'RFI, pour cette aide concernant cette émission. Décryptage, c'est tous les jours, vous le savez, à 18h10, temps universel sur RFI. Émission que vous retrouvez quand vous le souhaitez et partout sur la planète sur RFI.fr et sur l'application RFI Pure Radio.